Elle est bioesthéticienne, coiffeuse, créatrice de mode, photographe et présidente de l'entreprise Simple Beauty, Odia Kabakele, est aujourd'hui l'invitée de Grand Témoin. Odia Kabakele, soyez la bienvenue.
Merci.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Lorsqu'on regarde sur votre CV santé, vous dites très bonne. Vous êtes en très bonne santé.
Je crois, sinon je ne serais pas là.
Avec vous, nous avons parlé de beaucoup de choses, de coiffure, de esthétique, stylisme. Vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Nous commençons souvent par parler de l'enfance, l'une des meilleures périodes d'après certaines personnes. Est-ce que Odia Kabakele peut nous parler de son enfance?
J'ai grandi en Europe, je suis revenue ici quand j'avais 20 ans. La coiffure et la bioesthétique, je l'ai fait parce que je ne voulais pas être médecin comme mon père. Et quand j'ai vu dans un livre bioesthétique, bioesthéticienne, je me suis dit avec un prof, c'est pareil. Il acceptera, il pensera que ça a trait à la médecine et il me laissera faire. Et c'est ce qui s'est passé.
Je vais vous aider à donner un peu plus de détails sur votre enfance. Vous naissez le 30 janvier 54, où exactement?
À Tubalin, oui.
Dans quelle partie du pays?
Versailles occidental.
C'est là que vous naissez, c'est là que vous faites vos études, primaires, secondaires, qu'est-ce qui s'est passé?
Non, j'ai tout fait en Europe, je suis partie quand j'avais 6 ans, et j'ai fait mes études primaires, secondaires là-bas, mais le secondaire c'est des humanités en beauté.
Le primaire c'est dans quel état?
À Liège.
En Belgique?
Oui, en Belgique.
Est-ce que vous pouvez me rappeler quelques noms d'amis d'enfance?
D'enfance, je ne me souviens plus tellement de l'école primaire, mais de l'école secondaire, oui. Mais ce dont je me souviens à l'école primaire, c'est que nous avions des dictées que l'on faisait sur base des coiffures que ma mère me faisait parce qu'elle me faisait des tresses. Et les étudiants, là, ça les intriguait de voir ça. Et alors la maîtresse d'école faisait souvent des rédactions ou des dictées sur mes coiffures.
Là, c'était déjà une prédisposition à ce que vous êtes devenu aujourd'hui.
Pas spécialement. Moi, j'aimais bien dessiner plutôt. Et je voulais être architecte d'intérieur. Ou architecte en bâtiment, et comme mon père voulait absolument que je fasse la médecine, je suis devenue bioesthéticienne et coiffeuse, vraiment par hasard, tout ça à cause de ce fameux précis, pour qu'il me laisse faire ce que je voulais.
Vous avez l'air très sereine, hein? Dans l'enfance, vous aviez le même tempérament, calme, ou vous étiez un peu plus
bouillant? Oui, j'étais l'aînée des filles. Bon, de toute façon, les filles, c'est mes parents, il n'y en a pas eu beaucoup, nous n'avons été que trois, et puis nous sommes restés à deux, et j'avais déjà des responsabilités toutes petites, donc en Belgique, vous n'avez pas de personnel de maison comme vous avez ici. Alors, il fallait bien aider la maman, s'occuper des petits frères et des petites sœurs, s'occuper de la nourriture, du repassage, du nettoyage.
Donc
c'est un bon apprentissage.
Vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour quelques petits enfants?
Non, mais je crois que c'est une prédisposition aussi. Ça dépend un petit peu. Quel est le caractère que vous avez de l'enfance? Donc, soit que vous êtes bouillant, soit que vous êtes calme.
Si je comprends, la famille est arrivée en Europe grâce au travail de papa.
Voilà.
Qui est allé pour une spécialisation.
Oui, il a continué ses spécialisations là-bas et puis nous sommes restés, nous avons grandi là-bas.
Vos humanités, vous en parliez déjà, c'est à l'Institut de coiffure et bioesthétique de la ville de Liège en Belgique. La bioesthétique pour donner l'impression à votre père que vous avez créé à la médecine, vous ne regrettez pas aujourd'hui?
Non, pas du tout, mais une chose que je regrette, c'est que la médecine esthétique n'existe pas à cette époque-là. Or, aujourd'hui, il y a la médecine esthétique, et je pense que si cela avait existé à ce moment-là, c'est ce que j'allais faire.
Expliquez-nous un peu bioesthétique, ça renvoie à quoi?
C'est juste une meilleure connaissance de la vie, de la peau et des cheveux. Donc, pour mieux traiter la peau et les cheveux.
Et ça fait combien de temps que vous êtes dans ce métier?
Depuis l'âge de 20 ans.
20 ans aujourd'hui, vous avez 55 ans. Mmh. Ça fait plus de 30 ans, 35 ans.
Voilà.
C'est bon.
Mmh.
En Europe, quand vous vous lancez dans ce secteur, vous vous attendiez à quoi exactement?
Oui.
À quel résultat? À revenir au pays? À travailler où? À faire quoi?
Oui, j'avais envie de revenir au pays. On a toujours envie de revenir chez soi. D'ailleurs, je n'ai jamais changé de nationalité. Je me demande si j'avais bien fait parce que ça m'aurait facilité beaucoup de choses pour les visas, mais j'ai toujours été fière d'être ce que je suis. Et je rêvais déjà d'avoir un temple de la beauté, parce qu'avec tout ce que je fais, je me disais, on pourrait rentrer chez moi le matin et ressortir le soir. Et ce temple, ce serait faire un culte de son corps. De la même manière que les temples religieux, on en fait des cultes religieux, mais moi, c'est pour la beauté. Et je voulais que les personnes rentrent et pouvoir les métamorphoser. Et ce qui m'a surtout donné envie de réaliser cela, c'était le magazine Ebony, le magazine américain. Vous aviez des photos avec before, after, donc avant et après la transformation. Et maintenant, je dois dire que j'arrive aussi à faire cela. Quand on voit des personnes qui viennent chez moi pour les mariages, c'est les photographies avant, et puis après, la métamorphose. Vraiment, il y a des personnes qui découvrent qu'elles n'ont jamais été laides, mais qu'elles étaient simplement paresseuses.
En Afrique, vous le savez, chaque mot a sa signification. Odia Kabakele, qu'est-ce que ça veut dire?
Bien, Odia, on m'a toujours dit que c'était le nom d'une fleur. C'est ce genre de fleur qui éclot avec la rosée du matin et qui se referme, donc, et qui veut dire en même temps beauté, donc je ne savais pas. Et puis, j'ai découvert aussi que c'était un prénom hébreu. Et en hébreu, ça veut dire splendeur de l'éternel. Et,
beauté de l'éternel.
Voilà, et ça veut dire aussi remerciement à Dieu.
Ah bon.
Alors un jour même, j'ai demandé au rabbin d'ici si c'était vrai. Il me demande, où est-ce que vous avez eu ça? Je lui ai dit, vous savez, nous... on est les juifs du Congo.
Ça, c'est bien dit. Et pendant que vous grandissiez au Dia Kabakele, avez-vous de l'attrait pour la musique
J'aime la musique, mais je préfère la musique classique. C'est reposant. Comme vous l'avez dit vous-même, je suis calme, donc je n'aime pas ce qui est trop bruyant. Oui, donc la musique classique, on parle n'importe quoi. Et puis, j'avais appris à jouer au piano quand j'étais plus jeune, puis j'ai abandonné. Parce que c'est pas gratuit les études de piano en Europe, mais il y a un instrument que j'aurais voulu jouer, c'est le violon. Je trouve que ce timbre du violon est assez spécial et ça donne une autre tonalité à la musique.
Dans la musique classique, quel est le morceau qui vous frappe le plus?
Oh là là, j'en ai tellement, et puis, bon, ce que j'aime bien aussi, bon, par exemple dans Beethoven, il y a des classiques. Je veux dire vraiment les titres, sincèrement, je ne les retiens pas, j'écoute, parce que ça fait un moment que je n'ai plus tellement le temps de tout écouter. Et ce que j'aime dans la musique américaine, c'est le R&B, parce qu'ils ont tendance à reprendre un petit peu du classique. Oui. Et en dehors de la musique classique, bon, j'aime la musique chrétienne, pas tout le monde, leur bongo, Alain Moloto, voilà. drogue.
Odia Kabakele, vous êtes diététicienne, coiffeuse, créatrice de mode, photographe. En raison à vos études, hein, votre diplôme est de niveau technique A3, A2. Ça correspond ici à quel degré?
Ce sont des études techniques, des techniques qui peuvent vous aider à accéder même au niveau universitaire. Parce que vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les humanités en beauté. Donc j'avais 40 heures de cours par semaine, mais vous n'avez que 10 heures de cours pratiques. Tout le reste du temps, c'était histoire, français, géographie, mathématiques, physique, chimie, biologie, j'en passe.
Ah donc, si je comprends, c'est ce qu'on appelle ici des études professionnelles.
Non, le professionnel, c'est A4, tandis que là, c'est A3 et A2, c'est supérieur. Okay. Avec le A4, vous ne pouvez pas accéder à l'université. Et vous n'avez pas autant de cours, comment donc, de théorie, de cours généraux, vous ne les avez pas.
Et pourquoi vous n'avez pas voulu aller jusqu'à l'université pour ça?
Bien, quand je suis revenue et que j'ai commencé à travailler, je n'ai pas pu continuer. Sinon,
Vous avez pris goût à l'argent?
Oh, pas du tout, parce que je continuais à faire des formations. Et si j'étais partie à l'université, c'était pour faire business administration, pour mieux m'occuper de mes affaires. Et je continue à le faire. Je continue à faire des formations sur le leadership et concert, parce que même quand on a été à l'université, on doit continuer encore à étudier. Et je pense qu'on doit étudier jusqu'à la fin de ses jours. On n'apprend jamais suffisamment.
En plus, vous avez fait des études bibliques. C'est quoi exactement que vous avez fait?
La théologie pratique. Pourquoi? Parce que je trouvais que de plus en plus, beaucoup d'églises déveillent dans notre pays. Et je n'avais pas envie de me laisser berner par les intérêts de certains hommes qui tournent les versets bibliques selon leurs besoins. Je me suis dit, il faut aussi que je connaisse ce qu'il y a entre les lignes, entre les mots et à la fin de chaque phrase. Donc, avoir les clés. Et ça m'a fait énormément de bien parce que finalement, ces cours de théologie pratique, c'est en somme des cours de leadership. Ça vous permet de mieux gérer, d'avoir une meilleure gestion de votre entreprise et même une meilleure gestion de votre environnement. Et avant cela, comme vous avez vu, je fais tellement de choses, je les faisais un petit peu en désordre, maintenant c'est beaucoup
plus ordonné.
Plus ordonné.
À la fin de vos études à l'Institut de coiffure et diététique de la ville de Liège en Belgique, vous rentrez à Kinshasa en août 1974. Vous commencez à travailler dans le salon de coiffure Clawes, situé numéro 5 de l'avenue du Port. Mais très vite, hein, 4 semaines après, vous en devenez propriétaire.
Parce que c'était le moment où il y avait la valorisation et que la plupart des expatriés cherchaient à fuir le pays, mais en essayant d'emporter quelque chose. Et il a trouvé que je pouvais reprendre le salon. Et j'ai repris le salon, donc après 4 semaines, comme vous le dites. Je ne savais pas qu'il voulait remettre le salon à quelqu'un. À chaque fois, il me disait, je veux voir votre père. Moi, je croyais que c'était parce que j'arrivais en retard au travail. J'arrivais souvent... Le travail commençait à 7h du matin, ou à 7h30 à l'époque. J'arrivais à 8h, 8h30, 9h.
Ah,
parce que c'était la période des booms. Tous les Belgiques faisaient des surprises parties, donc j'arrivais toujours en retard, et je me disais, ça y est, je vais faire le rapport à mon père. Puis je lui ai dit, mais vous savez, mon père, il est médecin, il est souvent de garde. Alors si vous ne me dites pas, pourquoi vous voulez le voir, au moins comme ça, je pourrais lui laisser une petite note. Alors, il me dit, mais c'est pour reprendre mon salon. Il fallait le dire tout de suite. Moi, je pensais qu'il voulait m'accuser. Alors, c'était pour remettre le salon. Alors, j'étais accusé. Et là, je n'ai même pas fait une note à mon père. J'ai attendu, j'en ai tardé, voilà.
Donc, exactement le 4 septembre 1974.
Voilà.
J'étais la nouvelle propriétaire.
Disons que c'est la date de mon registre de commerce. Voilà.
Vous avez eu l'avantage hein, de servir quelques premières dames d'Afrique, à savoir la première dame du Zaïre à l'époque, de la République démocratique du Congo, celle du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Gabon. Vous avez aussi été invité hein, à des travaux de mise en beauté, coiffure et maquillage lors des mariages aux membres de certaines familles présidentielles en dehors du pays. Racontez-nous un peu tout ça, comment on s'est travaillé.
Bien, je crois que ce que je faisais leur plaisait et on m'appelait assez souvent pour quand il y avait des manifestations assez particulières et j'ai eu aussi la chance de pouvoir voyager souvent avec Yaa Internet, Madame Sassou. Je l'appelle Madame Yaa Internet pourquoi? Parce que nos parents étaient des grands amis. Alors elle avait vu ses petites sœurs qui traversaient de temps en temps en disant « Mais qui vous coiffe comme ça ?» Elle dit « Mais c'est une autre de ses petites sœurs. C'est la fille du professeur qui a vacillé. Ah, mais il fallait le dire tout de suite, amenez-la moi. » Et c'est comme ça, voilà. J'ai commencé à aller là-bas et commencé à travailler avec elle. De temps en temps, elle m'appelle.
Quel est le secret pour avoir bonne chevelure? Parce que je sais que ça préoccupe beaucoup de femmes qui sont en train de me suivre même, et des hommes même.
Il faut les laver régulièrement. Il y en a qui pensent que plus on les lave, plus les cheveux s'abîment. C'est le contraire, parce que il faut que les cheveux soient aérés. Il faut enlever toutes les poussières, surtout pour le moment en saison sèche. Quand on met des pommades ou des huiles dans les cheveux, les poussières s'accrochent encore plus facilement. Donc c'est vraiment nécessaire de les laver au moins une fois par semaine. Et de mettre quand même une petite pommade ou un peu d'huile, parce que nous les Africains, plutôt nous les Noirs, nous avons des cheveux qui sont très secs. Et pour un meilleur entretien, il faut donc les lubrifier de temps en temps.
Et par rapport aux soins liés à la peau?
À la peau, ben, les trois temps, nettoyer, tonifier, nourrir, NTN. Et la beauté, ce n'est pas le type de produit éclaircissant, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Et nous, les hommes, quand je dis les hommes, c'est-à-dire donc la race humaine, nous sommes un petit peu comme les serpents, c'est-à-dire en union. Nous ne laissons pas notre peau derrière nous comme les serpents, mais nous avons des cellules mortes qui sont enlevées régulièrement. Et quand vous faites des gommages régulièrement, vous avez toujours la peau beaucoup plus éclatante. Or, avec les produits éclaircissants, surtout quand ils ne vous conviennent pas, vous commencez à attraper des boutons, vous commencez à attraper des taches. Et quand vous allez au soleil avec, les ultraviolets ne vous pardonnent pas, ils vous agressent et ce ne sont plus des taches de mine que vous avez, mais vous pouvez attraper aussi des taches cancérigènes et des bleus. Et la peau est tellement fine que lorsqu'elle est attaquée, c'est irréversible. Ça devient une cicatrice ou bien une tache un petit peu bizarre que vous ne pouvez plus récupérer, que vous ne pouvez pas rattraper. Regardez par exemple le cas de Michael Jackson, il a raconté tout ce qu'il voulait, mais il avait un complexe, il voulait devenir blanc, ce qui est dommage, on est ce qu'on est. Quand Dieu vous crée, il ne se trompe pas, il a besoin d'une grande diversité, que ce soit dans la nature, que ce soit dans les races humaines, et quand il vous a créé, selon votre couleur, selon votre ethnie, selon votre pays et tout, c'est que vous avez une mission à accomplir sur cette terre et vous devez chercher quel est le but, quelle est la mission pour laquelle vous êtes là et arranger cela. Sinon, après, vous vous donnez peut-être la mort.
J'allais dire amen, hein, ça c'est la théologienne qui parle. Dans cette expérience, hein, coiffée de grandes dames d'Afrique, quelle est la meilleure coiffure, celle qui a retenu votre attention à ce jour par exemple?
C'est mon dernier client. Quelle est la meilleure coiffure? Moi, on me demande ce que je peux faire, mais souvent les coiffures de mariée ou les coiffures de grands galas, ce sont les signons. Et les femmes aiment beaucoup les signons style espagnol. Ce sont des signons dans la nuque, un petit peu comme l'ex-présidente de l'Argentine, Madame Evita Perón. Donc, pour celles qui connaissent, elles peuvent regarder un petit peu les signons comme on voit aussi sur les défilés de mode haute couture. Donc, des signons qui donnent beaucoup de classe et beaucoup d'allure.
Mais l'Afrique, hein, la RDC en particulier, a aussi une histoire en ce qui concerne la chevelure, les différents modèles. Hein, dans la société traditionnelle, ça existe aussi.
Oui, bien sûr. J'ai eu à faire une année un calendrier pour la Gelfail du Zaïre, donc à l'époque. Et on m'avait demandé de faire et les coiffures, et le maquillage, et les photos, et même l'habillement. Et j'ai fait deux ou trois calendriers. Il y en avait un, c'était l'habillement. Et un autre, c'était surtout les coiffures donc traditionnelles. Alors vous avez des coiffures qui ressemblent à la nana, vous en avez d'autres qui ressemblent à des arbres, vous avez d'autres qui ressemblent à des... vous avez des petites crottes de chèvre, il y en a de toutes sortes. Et j'ai pu me documenter à la librairie Saint-Paul, qui ont quand même des livres sur toutes ces coiffures ethniques-là, qui sont assez diversifiées.
Mon amour, tu peux te hâter d'abord, Oh,
Odia Kabakele, ça fait 35 ans que vous êtes dans ce métier, vous êtes diététicienne, coiffeuse, créatrice de mode, photographe.
Une artiste,
hein, voilà, de manière générale, photographe.
J'ai commencé la photographie, j'avais 10-11 ans, et j'ai continué jusqu'à ce jour, et maintenant je le fais un peu plus professionnellement, mais je ne suis pas chasseur d'images. Alors, pour dire que je ne suis pas là à attendre qu'il y ait un événement pour aller attraper une image mise à paradis. Je trouve ça un petit peu indécent. On m'invite, on me commande des reportages photos et donc je le fais. Là, dernièrement, je viens de faire deux week-ends de suite, non, trois week-ends, des reportages photos pour des mariages.
35 ans après, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce métier?
Il y en a beaucoup. D'abord, vous savez, quand vous voulez vous installer aux États-Unis, on voit quelqu'un comme ça, ce sont les banquiers qui courent après. Ici, les banquiers, il faut leur laisser les bottes. Et même ça, ils ne vous donnent rien, ils ne regardent que les grandes sociétés. Quand vous n'êtes pas une grande société, que vous êtes une PME, c'est à peine s'ils vous regardent. Mais avec la concurrence actuellement, ils commencent quand même à faire attention à vous, mais ils ne vous donnent pas encore le crédit dont vous avez besoin. Or, comme vous dites vous-même, ça fait 35 ans que je suis là-dedans, et je pense qu'il est temps de passer le bâton du relais à la jeunesse. Parce qu'un succès sans successeur est une autre forme d'échec. Alors, j'espère que d'ici quelques mois, je pourrai quand même ouvrir cette école et voir si une banque pourra m'aider pour la monter, cette école, ou bien s'il faudra encore que je fasse appel à une ambassade qui sont toujours prêtes à pouvoir aider les personnes qui sont prêtes à aider la jeunesse à évoluer.
Vos notions de cosmétologie vous ont permis de mettre au point une huile merveilleuse pour les cheveux du cou. C'est laquelle?
Je ne porte pas de nom parce que c'est une huile de un mélange que je fais.
Alors parlez-nous des vertus de cette huile.
Elle enlève les pellicules, elle fait pousser les cheveux et elle les étoffe parce qu'il y a des cheveux qui sont assez rares aussi sur la tête. Mais avec ça, les cheveux deviennent beaucoup plus abondants.
Et pour ceux qui ont des calvitie, qu'est-ce que vous leur conseillez par exemple?
D'abord, il faut se poser la question d'où vient la calvitie. Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est dû à un mauvais traitement chimique? Est-ce que c'est dû à une maladie? Donc vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Et ça se discute avant de savoir quel est, je pourrais dire, le remède que l'on peut donner donc à la personne.
Nous tombons lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Quel message pouvez-vous adresser à toutes ces femmes qui souhaiteraient atteindre le niveau qui est le vôtre aujourd'hui?
Eh bien, mon secret, c'est lire tous les jours, étudier, apprendre. On n'apprend jamais assez. Il faut toujours continuer à apprendre jusqu'à la fin de ces jours.
Odia Kabakele, merci d'être passé à Grand Témoin.
Je vous remercie, Alain.
Franchement, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais Odia Kabakele, bioesthéticienne, coiffeuse, créatrice de mode et photographe, présidente de l'entreprise Temple of Beauty. À la technique, héritier Sylvia Kala, devant ce micro, Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions des Grands Témoins. Merci de nous suivre à Kibala dans la province du Kasaï-Oriental et partout dans le monde.